France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Nouveau choix budgétaire, investissement supplémentaire, l'effort de guerre vers lequel nous allons, nous en France, mais chez tous nos voisins aussi, est diversement perçu en Europe. Dans les pays proches de la Russie, cet effort à consentir, évidemment, est plus facile à faire admettre à une population élevée presque dans l'idée d'un danger potentiel. L'Europe du Nord, les pays baltes, regardez, les Danois ont déjà annoncé la retraite à 70 ans pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Pour nous, pays de l'Ouest, pour nous la France, en particulier, c'est peut-être plus compliqué. Atteindre jusqu'à 5% de notre PIB consacré aux dépenses militaires, c'est un effort considérable. Ça veut dire gonfler chaque année les crédits de plusieurs milliards et les caisses sont vides. L'Europe desserre la vis sur le taux d'endettement, mais enfin nous, ça fait longtemps qu'on a desserré toutes les vis. Notre déficit est à 6% du PIB. Nous sommes déjà dans un casse-tête pour le réduire. Est-ce qu'on peut à la fois réduire le déficit et financer l'effort de guerre? Ce sera partie de notre discussion. Bref, est-ce que la discussion que notre pays va devoir avoir, et je vois que l'un de mes invités va virer au rouge, est-ce que c'est sécurité contre sécurité sociale? Qui va payer l'effort de guerre? Ne vous inquiétez pas. Sommes-nous prêts à le faire? On a entendu le président de la République hier préparer les esprits. Jusqu'à quel point êtes-vous prêts? Est-ce que vous avez le sentiment que faire des efforts, ça veut dire rigueur? Est-ce que nous devons être inquiets pour notre modèle social, même si Éric Lombard, le ministre de l'économie, a dit non, c'était ici même, sur France Inter. Est-ce que le conclave sur les retraites, s'il a commencé là seulement, et d'ores et déjà torpillé sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'on parle d'épargne? Est-ce qu'on parle d'un emprunt géant? Est-ce qu'on parle évidemment des plus grandes fortunes? Est-ce qu'on remet toutes les discussions de ces derniers mois sur la table? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Amélie, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir et merci de prendre ma question. Elle est très simple. Pourquoi ferme-t-on d'emblée la porte des impôts? Et pourquoi, par exemple, ne pourrait-on pas envisager une hausse de 1%, 2% pour les personnes qui payent déjà des impôts, pas pour les personnes qui n'en payent pas?
Merci beaucoup pour votre question, Amélie, pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Frédéric Souillot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière. Il y a Christian Deboissieux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes et vous sortez aujourd'hui même la nouvelle guerre des monnaies chez Odile Jacob avec Marc Schwartz. Je vais vous poser la question à tous les deux, Frédéric Souillot. Les impôts, c'est Emmanuel Macron d'emblée qui a fermé cette porte-là, en fait, hier, en disant il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Faut-il la fermer? Faut-il la laisser entrouverte, cette porte-là, à votre avis?
Je ne sais pas, le président de la République, la porte sur les impôts, elle est toujours fermée. C'est devenu un vrai tabou de parler d'impôts. Par contre, les allègements totaux de cotisations aux entreprises sans aucune conditionnalité ni contrepartie, on a les derniers chiffres fin février, à 200 milliards d'euros. Donc, si on doit regarder comment on finance, alors on passe d'une guerre économique avec les USA, et on finit avec une économie de guerre maintenant sur l'Europe, et je ne suis pas sûr que toute l'Europe, parce que l'Europe, ce n'est pas une nation, c'est 27 nations. J'ai fait pour Force Ouvrière, nous avons fait pour Force Ouvrière un communiqué de presse qui s'appelle « Pain, paix, liberté ». Je rappelle Léon Jouhaud, le fondateur de Force Ouvrière, prix Nobel de la paix en 1951. L'union des travailleurs fera la paix dans le monde.
Christian Deboissieux, il y a beaucoup de nos auditeurs qui parlent d'un impôt volontaire, en fait, d'une sorte de prélèvement volontaire.
Écoutez, moi, je suis sur cette ligne.
C'est ce que j'avais
vu. J'ai regardé ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale.
Okay.
Bon, excusez-moi, je n'étais pas là.
Non.
Mais l'historien... rappelle quand même qu'il y a eu entre 1915 et 1918 plusieurs emprunts de la défense nationale. Vous vous souvenez des affiches qu'on voit encore, d'ailleurs, justement, pour inciter les Français à acheter ces titres, ces emprunts. Pourquoi je suis favorable à cette voie? C'est qu'il y a beaucoup d'épargne. Qui traduit l'incertitude, l'absence de confiance, etc. Et on n'a pas retrouvé le taux d'épargne qu'on avait avant le Covid, c'est-à-dire que les chocs successifs ont poussé les Français à être, j'allais dire, plus incertains, plus etc. Et donc, Comment mobiliser cette épargne ?
Alors, est-ce qu'on mobilise l'épargne, on la flèche différemment, ou est-ce qu'on crée un outil d'épargne ? Est-ce que vous dites
moi,
qu'il faut...
si vous voulez, l'outil d'épargne, il y a déjà pas mal de livrets d'épargne réglementés, il y a le livret A. Le livret A, il sert en partie à financer le logement social.
Ouais, absolument.
Je ne suis pas sûr qu'il faille cibler une partie du livret A vers le financement de la défense, parce qu'on ne peut pas non plus compartimenter comme ça l'épargne.
Mais donc on en ouvre un, on ouvre, il y a un livret A, il y a des LDD, on ouvre un livret A.
Oui, mais en plus, l'épargne, c'est quand même... cette épargne du livret A, c'est l'épargne à très court terme, qui est liquide. Alors, elle est déjà consolidée, puisque le financement du logement social, ce sont des financements à long terme. Mais je pense qu'il... Si vous voulez, moi, je regardais un peu ça, et je pense que la voie de l'emprunt... pas le rendre obligatoire, parce que là vous le plombez tout de suite si vous le rendez obligatoire, l'emprunt. Il faut qu'il soit facultatif, il faut qu'il rapporte un intérêt qui soit suffisant. C'est un emprunt à long terme pour financer des dépenses de long terme, parce que les dépenses de défense sont des dépenses à long terme. Et je termine en disant qu'il ne faut pas être uniquement obnubilé par la dimension française du problème. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a bien dit qu'une grande partie de ces dépenses de défense doivent être mutualisées au niveau européen, qu'il faut que les pays assouplissent les règles de calcul du déficit public. Donc, il n'y a pas...
Il y a une partie de l'effort, effectivement, qui reposera sur les épaules de l'Europe. Mais Frédéric Souillot, pour continuer ce que disait Christian de Boissieu, si on imagine, y compris nous, mais tellement de nos auditeurs, soit un emprunt pour certains, soit un nouvel outil d'épargne qui serait fléché, est-ce que ça veut dire que de marge, à votre avis, là, nous n'avons pas, de toute façon ?
Mais...
Il faut donc inventer autre chose, parce que des marges, dans la manière dont la France budgétairement fonctionne aujourd'hui et toutes les difficultés qu'on connaît, de toute façon, il n'y en a pas.
Ben, alors, je ne sais pas, mais la politique économique menée depuis des années a détruit notre productivité, nos services publics et notre industrie. Donc, quand on parle de réindustrialisation sur l'armement, il va nous manquer plein de matières premières, plein de compétences. C'est comme en 2023, quand on nous a parlé de sobriété énergétique, puisque depuis 2000, les centrales nucléaires n'étaient plus l'avenir. Mmh. Et même s'il y avait des EPR, et on avait même arrêté les cours dans les écoles. Mmh. Là, aujourd'hui, on atteint 100 milliards de dividendes pour les entreprises du CAC 40, et chaque année, on dépasse le plafond. Ben, peut-être que de ce côté-là, on peut peut-être regarder. Et toutes ces entreprises qui fonctionnent bien de l'armement, une grande partie de l'actionnariat, c'est l'État français, qui va faire 59 milliards de dividendes. Donc, charité bien ordonnée pourrait commencer par soi-même, au moins sur cette partie-là. Mmh.
Ça veut dire... pardon, je vais réitérer ma question, Frédéric Souillot. Est-ce que ça veut dire que... est-ce qu'on remet sur la table le budget qu'on a déjà voté, qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà tordu dans tous les sens ? Ou est-ce que là, il y a une marge à trouver ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut repenser ? Ou est-ce que vous dites, vous, AFO, mais il n'en est pas question, parce que tout ce qu'on pouvait ponctionner a été ponctionné désormais.
Mais on avait déjà un budget d'austérité qui a déjà fait une motion de censure qui n'était pas arrivée. On a eu de la petite politique politicienne.
On se souvient de tout ça, et c'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais. Et pour le coup, si on réduit encore sur l'école, l'hôpital, la santé ou la sécurité sociale... Eh bien là, c'est plus de l'austérité. Il n'y a plus qu'à faire la lettre de mobilisation pour le président de la République et puis on arrête tout.
On va retourner au standard dans un petit instant. Je voudrais vous poser la même question, Christian de Boissieu, avant qu'on y retourne. Est-ce qu'en l'état, on peut remettre tout sur la table, on remet tout dans le shaker, on secoue encore une fois, on remet parce qu'on est obligé désormais, la donne a changé, ou est-ce qu'on se dit qu'il faut inventer d'autres manières et d'autres produits parce que les marges, on ne les a pas ?
Écoutez, il faut créer d'autres voies parce qu'on a eu suffisamment de difficultés à faire adopter le budget 2025.
Donc
on ne va pas rouvrir le débat sur le budget 2025 et le psychodrame qu'on a vécu. Donc, moi je pense qu'il faut trouver des voies, et je répète, les voies d'un ou plusieurs emprunts ciblés sur le financement des dépenses de défense me paraît une voie indispensable. Et la deuxième voie, qui est d'ailleurs la première, c'est la voie européenne, puisque, veut dire, nous sommes dans un contexte où enfin on devient pragmatique au niveau européen. Les Allemands ne bloquent plus du tout ce qui faisait dans le passé ce genre de degré de liberté dans la gestion des finances publiques. Profitons-en, si je puis dire. Profitons du fait que je pense qu'il peut y avoir un accord européen. Alors à 27, on verra si c'est à 27.
On verra si c'est à 27.
Si c'est pas à 27, il faudra avancer à moins de 27.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on se dit aussi, dans ces cas-là, on arrête d'essayer de se mettre d'accord à 27 et s'il faut avancer à 3, on avancera à 3.
Je pense que nous sommes déjà dans une Europe à plusieurs vitesses et que le fait de vouloir absolument avoir l'unanimité des 27 est un facteur de blocage. Il faut avancer avec les pays qui le veulent et qui le peuvent.
Nous avons Isabelle sur WhatsApp. Ok pour une ponction de mon épargne, mon assurance vie notamment. Ok pour une contribution supplémentaire ou complémentaire. Pour ma part, jusqu'à 5% de mon revenu fiscal CO. On a Irène, mon cœur de pacifiste saigne, mais ma raison de prof d'histoire me dit que oui, on doit accepter un effort de guerre. Inversement, une autre Isabelle, ça me rend dingue, ces sommes colossales qui vont être dépensées à cause de quelques fous dans le monde, alors qu'on n'a pas d'argent pour la crise climatique, pour la culture ou pour les aides sociales, ou tout simplement pour travailler en paix. Je trouve choquant, nous dit Pierrot, de parler d'effort de guerre. Et voici Alain qui est avec nous au standard. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi je suis un peu partagé entre ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire qu'à titre personnel... Je me sens pacifiste, bien évidemment, mais je pense aussi à la maxime de César, c'est-à-dire que si tu veux la paix,
préfère la guerre.
Et avec, des Olibrius, enfin, je les appelle comme ça, comme Trump, et surtout les gens qui le soutiennent, Poutine, etc., je pense qu'on risquerait de refaire la même erreur qu'il y a eu pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a un fort courant pacifiste, on a refusé de voir l'évidence, Hitler qui s'armait, etc., bon, on a vu les conséquences. Quand tu as participé à un effort de guerre, le mot, je préférerais un effort de paix, ça a été dit par je ne sais pas quel ministre.
Ouais.
Moi, je suis prêt, effectivement, je vais être à la retraite, je suis un enseignant, je vais avoir peut-être 2 900 € de retraite. J'accepterai qu'il y ait une part de cette... qu'il y ait un effort, oui, qui soit fait là-dessus, et même mon épargne, pourquoi pas, si je pouvais en mettre un peu. Mais dans le même temps, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on refuse de taxer ces super riches hein, qui, soi-disant, sont patriotes et sont prêts à migrer vers des pays où ils seront moins taxés. Je trouve que là, il y a vraiment le problème du patriotisme tel qu'il est employé par certains courants politiques comme le RN, par exemple. J'attends de voir leur réaction, quoi, parce que s'ils sont soi-disant patriotes, eh bien, je sais pas, quand on est patriote, on défend son pays. Mmh. Sauf que c'est des courants qui ont tendance à vénérer ces Trump et Poutine parce que soi-disant c'est des hommes forts qui défendent leur pays, mais on se rend compte qu'à force de défendre ses propres intérêts, c'est forcément au détriment des nôtres. Donc à un moment donné, il va falloir savoir se positionner. Quant à LFI, dont je me sentais plutôt proche, moi je suis d'accord, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit une casse sociale sur les plus démunis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois mettre de l'argent sur l'armement, qui va enrichir, encore une fois, ceux qui ont les moyens de spéculer là-dessus, parce qu'il va se faire des fortunes encore là-dessus, au détriment de ceux qui n'ont rien. Je pense qu'un smicard actuellement, on ne peut pas lui demander un gros effort. Il paye des impôts par sa TVA, par sa façon de consommer. Donc voilà, il faut trouver un équilibre.
Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, Alain. Effectivement, trouver un équilibre. Frédéric Souilleux, il n'est pas tout seul, Alain, pour dire, moi, si je mets la main à la pâte, il y a intérêt à ce que les plus grosses fortunes mettent aussi la main à la pâte. Je voudrais citer la porte-parole du gouvernement, c'était chez nos amis de France Info cet après-midi, et qui parle du patriotisme au fond des grandes fortunes. Est-ce qu'on attend ça aussi? Est-ce qu'on doit attendre ça aussi dans ce moment-là?
Mais ça devrait arriver naturellement.
Ça devrait être naturel.
Mais je le disais tout à l'heure, 100 milliards de dividendes pour les entreprises du CAC 40. Et tous les ans, on dit, ils sont encore de nouveau exceptionnels. Et ces 100 milliards de dividendes, on nous parle de partage de la valeur, et puis le président de la République nous a dit « on partagera les dividendes de la paix ». Oui. Quand il y a des dividendes en temps normal, ce serait bien qu'il y ait aussi un partage de la valeur. 5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. 7,6% des Français. L'effort de guerre, je préfère l'effort de paix, je suis d'accord. Ouais. Pain, paix, liberté.
Je vous pose la même question, Christian de Boissieu. À un moment, la raison pour laquelle on la pose, c'est que pendant toutes les discussions du budget, Dieu sait qu'il y a eu des chapitres sur la contribution ou pas des plus grosses fortunes ou des plus grosses entreprises. La question va revenir sur le tapis. Faut-il l'adresser différemment ?
Moi, j'ai pas de problème avec cette contribution sur les hauts revenus et même sur la contribution des grandes entreprises. Le problème où font le débat, c'est de savoir est-ce que c'est pérenne ou est-ce que c'est transitoire. Il y a a eu ce débat devant le Parlement, et si l'effort de guerre à financer rend nécessaire de la rendre plus durable, ou en tout cas moins éphémère, pourquoi pas ? Je voudrais revenir sur un point qui me paraît important qu'évoquait notre ami, c'est que on va augmenter considérablement l'effort de défense, les dépenses de défense, sans sacrifier, en essayant de ne pas sacrifier les dépenses sociales. Pas poser ce problème d'arbitrage, essayer de jouer la complémentarité.
Ce qui a été dit, pardon, je vous interromps, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, c'est le ministre de l'économie qui a dit que théoriquement, on ne touche pas aux dépenses sociales. Et on ne touche pas aux régaliens non plus, c'est aussi ce qu'a dit le...
Voilà. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, au fond, augmenter les dépenses de défense dans les pays européens, y compris la France, ça profite à qui en termes de production ? À très court terme, nos stocks d'armes sont très faibles, compte tenu du fait qu'on a légitimement aidé l'Ukraine. Bon, et donc il faut reconstituer les stocks, et à très court terme, les dépenses de défense vont profiter, j'allais dire aux Américains, vont profiter aux Coréens, à ceux qui ont des stocks. Bon, et donc, là, il faut jouer fin, c'est-à-dire que les dépenses de défense vont augmenter rapidement, la production va mettre plus de temps à augmenter parce qu'il y a des délais. Et dans l'industrie de défense, tout à l'heure on parlait des grandes entreprises, je rappelle que dans l'industrie de défense en France, vous avez 4000 PME qui sont concernées par cette filière. Alors, elles n'ont pas toutes 100% de leur activité sur la défense, mais il y a beaucoup de PME qui ont 25 ou 30% de leur chiffre d'affaires dans la défense. Il faut aussi penser à ça.
Et on a des questions autour de ça. Alors, mobiliser les entreprises nationales, évidemment, reconvertir certains équipements, les synergies qu'il peut y avoir entre la défense et l'automobile, par exemple, on est d'accord que ça ne s'appelle pas du très court terme. Mais est-ce que ça s'envisage ? Est-ce que c'est sur le tapis, ce genre de choses ?
Je dis un mot là-dessus, c'est que il y a pas mal de dépenses de défense qui relèvent d'une approche duale, qui est à la fois militaire et civile. Bon, et on le voit bien, il y a les grandes entreprises françaises de la défense, que ce soit Thales, MBDA, enfin, franco-britannique, etc., Dassault Aviation, c'est à la fois du civil et des militaires.
Safran aussi.
Hein, Safran aussi. Et donc, alors c'est peut-être pas l'exemple que vous prenez avec l'automobile,
mais par exemple, c'était vraiment un exemple parce que ça me semblait deux industries qui pouvaient être proches à certains égards.
Et les Américains sont, c'est là où on a un petit handicap en Europe et en France aussi, c'est que les Américains sont beaucoup plus forts pour jouer de cette dualité civile-militaire que nous le sommes, par exemple en matière de recherche-développement.
Mais parce que pendant longtemps, on a aussi séparé les choses. Mais chez Thales, Alenia Space, où on fait du civil et du militaire. Donc ça existe. Bon, en même temps, on n'est pas non plus en 1915 ou en 1916 où Renault avait transformé ses chaînes de production pour y faire des canons et des obus. Hein. Ouais.
Ni au taxi de la Marne.
Non.
deux remarques, celle de Cachot sur WhatsApp, qui dit « Pas plus que pour le nucléaire, donc pas un rond pour la guerre, mon épargne sera plus utile pour les projets coopératifs et solidaires. » Et on a Bertrand qui dit « Je serai d'accord pour payer un impôt guerre. » Il y met évidemment des guillemets qui permettra le réarmement de la France et de l'Europe et le soutien des entreprises victimes de la guerre économique des USA. Il y en a qui sont bien partants. Et on a Fabien, j'aimerais soumettre sa suggestion à votre sagacité. Fabien qui dit « La journée de solidarité pourrait-elle être remplacée par une journée de contribution à la défense ?» Il suggère aussi une augmentation de la TVA hors produit de première nécessité qui serait juste pour ceux qui consomment le plus et contribuent donc le plus à la défense. La journée de solidarité, Frédéric Souillot, est-ce que ça vous semble être une suggestion qu'on regarde ou pas ?
Ben non.
Ok.
Ben non, parce que, tout simplement, encore une fois, on va présenter la facture au plus grand nombre, et on va dire aux travailleurs, ben, vous allez travailler 7 heures de plus pour la défense et l'économie de guerre. Pour autant, on ne fera pas moins de dividendes à la fin de l'année, qui, eux, ne seront pas plus taxés qu'ils ne le sont. Alors, on le fait de manière pérenne ou transitoire. Je n'en sais rien, mais à un moment, quand vous versez 20 milliards de dividendes à vos actionnaires et que vous avez 1,8 milliard d'aides publiques pour votre entreprise, vous n'en avez pas besoin. Vos actionnaires ne seraient pas moins riches si vous n'aviez versé que 18 milliards de dividendes. Mmh. Et ces 1,8 milliard d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité, ben voilà un chemin qu'on pourrait trouver. Mais présenté la facture aux travailleurs sur la journée de solidarité. Alors, il y a quelques semaines, c'était 3 jours qu'on mettrait sur un compte et...
Stop. Et qui a été abandonné, effectivement, pendant les fameuses discussions budgétaires. Christian Duboissieu, rapidement.
Si ça fonctionne, si la journée de solidarité fonctionne comme le lundi de Pentecôte, qui a été créé sous le gouverneur Raffarin, c'est-à-dire en disant, voilà, on ne sait pas qui travaille. Moi, je ne sais pas qui travaille le lundi de Pentecôte et qui ne travaille pas. Mmh. Et ça rapporte, justement, dans la mesure où il y a une très grande ambiguïté, ça rapporte quoi ? 3, 4, je ne sais pas, éventuellement 5 milliards d'euros, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout à la hauteur. Je voudrais revenir sur un sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, mais qui concerne justement des choix éventuels. Il ne faut pas que le financement des dépenses de défense assèche le financement de la transition écologique.
Ah, oui.
Bon, il faut qu'on arrive à financer tout ce qu'il faut financer. Et c'est pour ça que je reviens sur la formule de l'emprunt, et c'est pour ça que je reviens sur le niveau européen. Ce n'est pas la France, toute seule, avec ses décisions, qui va financer l'effort de défense en France.
J'ai entendu ce que vous dites, en tout cas, c'est que tout doit venir, si je puis dire, de l'extérieur, que ce soit l'aide européenne,
Et l'épargne domestique.
Parce que sinon, ça veut forcément dire des sacrifices.
Ça veut dire des choix, des arbitrages compliqués, dans un contexte où il faudrait quand même essayer d'atténuer l'intensité de ces arbitrages.
Voici Véronique qui nous attend. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir France Inter.
On vous écoute Véronique.
Merci de prendre mon appel et merci d'exister. voilà, j'ai une question à poser. Moi je serais prête éventuellement à faire un effort financier, mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est puisque nous avons une dissuasion nucléaire, pourquoi devons-nous augmenter des dépenses militaires classiques ?
Merci Véronique. Alors, je ne veux pas vous transformer en spécialiste de défense et spécialiste militaire que vous n'êtes pas, mais est-ce qu'on peut expliquer, Christian Duboissieu, à notre amie Véronique, pourquoi...
Écoutez, c'est important d'avoir la dissuasion, mais elle est faite pour ne pas être utilisée. Parce que si elle est utilisée, on va tous crever. Excusez-moi, le premier qui lance une bombe nucléaire, bah, tout de suite les autres réagissent et le monde saute. Alors donc la dissuasion est là par définition pour dissuader les autres de commencer, d'amorcer. Et donc c'est la raison pour laquelle on a quand même besoin, malgré la force nucléaire française, britannique, sans parler de la Russie, des États-Unis, on a besoin d'avoir... de l'armement classique. Alors, classique, ça ne veut pas dire vieillot, c'est-à-dire les drones, vous avez vu, les nouvelles technologies se développent dans la défense, mais c'est du conventionnel.
Ce que je comprends de ce que dit Véronique, c'est le sentiment de se payer deux fois, en fait, puisqu'on a de toute façon, nous, une arme nucléaire donc qui coûte, qui s'entretient, et qui coûte énormément, et puis payer pour l'effort de guerre, donc double peine pour nous.
Mais c'est, en même temps, ça fait partie du statut de la France sur le plan international. C'est parce que nous sommes une puissance nucléaire aussi que nous tenons un rang au plan mondial qui est plus important que le ferait uniquement notre population ou notre poids économique.
On est en train de parler de comment financer cet effort de guerre qu'on nous demande aujourd'hui dans le téléphone avec Frédéric Souillot, qui est secrétaire général de Force Ouvrière, avec Christian Duboissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes, et avec Léo Klim. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste à Der Spiegel en France, Léo Klim. Et si on a voulu vous parler, c'est que chez vous, en Allemagne, on est vraiment dans une révolution copernicienne sur les investissements qui sont faits, qui ont été approuvés par l'Allemagne, 100 milliards d'investissements. Je me demandais dans la population ce que ça disait chez vous. Est-ce que l'idée d'un effort de guerre et donc d'un effort budgétaire est-il admis par chacun ? Comment ça se passe chez vous ?
Je pense qu'on est encore dans un moment de sidération, surtout, de tension, d'angoisse. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'avoir des élections. Juste après, on a, ou en simultané, on a le choc Trump qui vient par-dessus. Donc, la question de l'effort de guerre ne se pose pas encore comme ça, mais elle se pose quand même politiquement. C'est-à-dire que cette semaine, il y a eu une décision qui est allée très loin du futur chancelier, qui est en fait d'augmenter l'endettement pour, améliorer la défense de l'Allemagne et de l'Europe. Donc ça, c'est un tabou qui est brisé et c'est déjà un prix assez fort. Et ce sera aussi un prix financier, hein, mais ça passe à travers la dette.
Mais alors ça, c'est vraiment effectivement une révolution copernicienne, Léo Klim. Je me demandais si déjà, on avait une idée de ce que disait l'opinion en Allemagne, disant « ben oui ». Cet effort-là, il faudra le faire. Et oui, nous devons changer radicalement de direction et nous comprenons pourquoi. Ou est-ce que c'est difficile à faire accepter dans la population ? Vous l'avez dit, vous sortez d'élections qui ont été des élections difficiles. Vous avez un futur chancelier, mais vous n'avez toujours pas de coalition. On en est là chez vous quand même.
Oui, alors la coalition se bâtira probablement là-dessus. Ouais. Et si le futur chancelier Merz, un conservateur, a décidé de revirer de bord comme ça, c'est justement aussi pour s'assurer l'alliance avec les sociaux-démocrates. On pourrait dire de manière un peu ironique que Friedrich Merz s'apprête à être le meilleur chancelier social-démocrate depuis Willy Brandt, peut-être, puisqu'il va appliquer un programme de dépenses comme les Français ne pourraient pas mieux l'imaginer. Et ça, c'est quand même très surprenant pour un conservateur allemand pur jus. Il faut dire que cette décision, elle n'a même pas 48 heures. Donc, ce qui est débattu en ce moment, c'est que Friedrich Merz a menti à ses électeurs avec ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a promis à ses électeurs de la rigueur budgétaire et de ne pas augmenter la dette. Il fait le contraire juste quelques jours après les élections.
Voilà, j'allais vous demander, est-ce qu'on considère vraiment qu'il a menti ou est-ce qu'on considère que le monde s'est retourné dans les 10 derniers jours, donc avant son élection, enfin au moment même de l'élection. Au fond, le retournement du monde, même, j'ai presque envie de dire, c'est vendredi dernier dans le bureau ovale, quoi.
C'est vrai, c'est sûrement un électrochoc qui a eu lieu, mais Friedrich Merz montre aussi qu'il est assez habile et qu'il sait utiliser ce momentum. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas eu ça au fond de la tête déjà auparavant.
Et que l'occasion a fait le larron.
Voilà, et ce qu'il fait en plus, c'est qu'il s'assure sa coalition avec les sociaux-démocrates en offrant un fonds spécial pour les infrastructures de 500 milliards. Donc, en plus de lever le frein à la dette sur les dépenses de défense, il fait un package comme ça en utilisant effectivement ce moment sidérant à la Maison-Blanche.
Une toute dernière question, Léo Klim, parce qu'il y a un étage supérieur, si je puis dire, chez vous en Allemagne. D'abord, l'économie allemande, on le sait bien, était en difficulté, notamment dans ses exportations. Elle va en prendre en prime les droits de douane américains de plein fouet. Si d'aventure, d'ailleurs, les droits de douane sont maintenus sur l'Europe, puisqu'on sait qu'entre-temps, ils ont été enlevés pour ce qui est du Mexique, probablement aussi du Canada. Mais il y a aussi ça qui joue derrière, j'imagine, dans l'état d'esprit des Allemands. On sort de la sécurité de la dette, l'économie ne va pas bien, il y aura des droits de douane, on est dans ce moment électoral, il y a beaucoup de choses cumulées, et j'entends quand vous nous dites que les Allemands ont besoin de digérer tout ça à la fois, ça ne doit pas être simple.
Complètement. Là, on décide de faire une énorme relance budgétaire, qui sûrement va stimuler l'économie, en utilisant, si vous voulez, la cagnotte qu'on s'est constituée pendant de longues années de frugalité budgétaire. Donc, quelque part, c'est un peu aussi à ça que ça sert. Après, le choc est énorme pour les Allemands de ce qui se passe. Il est presque plus fort qu'après le début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans.
Ouais.
Parce que la plupart des Allemands sont des Ouest-Allemands et qui vivaient depuis 80 ans sous la protection américaine. Donc, pour nous, on ne pouvait pas imaginer, c'est vraiment une différence, je pense, avec la France. Les Français, eux, ont toujours vécu avec une conscience de pouvoir se défendre bien eux-mêmes, grâce notamment à l'arme nucléaire, et à une culture militaire ininterrompue. L'Allemagne ne possède pas ça. Et maintenant, donc, on doit complètement changer de logiciel.
Merci, Léo Klim, merci beaucoup. Vous êtes journaliste au magazine Der Spiegel. Merci de votre passage dans Téléphone Sonne. Christian de Boissieu, je vous voyais réagir.
Oui, moi, d'abord, je salue le pragmatisme allemand, enfin, en matière budgétaire. Bon, c'est pas le chancelier, nouveau chancelier qui a changé d'avis, c'est le monde qui a changé effectivement depuis quelques jours. Deuxième remarque, je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens là-dessus, Augmenter les dépenses de défense dans les pays européens, c'est nécessaire. À quoi ces dépenses vont profiter à qui ? Je veux dire, les Polonais, ils achètent des avions F-35 américains plutôt que des Rafales français. Les Allemands également achètent pas mal des F-35 plutôt que des Rafales. Je voudrais qu'on prenne au niveau européen un texte qui s'appellerait Buy European Act. Mmh. Les Américains ont adopté en 1933, juste avant l'arrivée de Roosevelt, un Buy American Act. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'une partie importante de ces dépenses de défense supplémentaires profite à l'Europe.
Alors ça peut venir parce que effectivement vous avez raison, les Polonais ont des F qui d'ailleurs sont ceux qui dépensent le plus dans leurs dépenses liées à la défense en Europe, ont effectivement des F-35, mais encore une fois, le monde a changé depuis quasiment vendredi dernier ou à peine avant. Donc ces achats-là dataient aussi de l'époque où la Pologne comptait avant tout de toute façon sur le parapluie américain. Un mot de Fabien au standard qui est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Donc les entreprises françaises sont leaders dans l'armement européen. Les investissements que l'on doit faire ne seront-ils pas couverts par les bénéfices et dont l'État est actionnaire de ces sociétés? Donc est-ce qu'on ne sera pas bénéficiaire à l'issue de tous ces investissements des pays européens dans des entreprises françaises?
Et donc moins besoin d'aller chercher l'argent dans la poche des contribuables, Frédéric Souillot?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur les 100 milliards de dividendes versés aux actionnaires, l'État français, sur Safran, Thalès et quelques autres, puisqu'il est actionnaire de ces entreprises, c'est 59 milliards qui sont rentrés. Donc, si on investit, qu'il y a un investissement européen dans ces entreprises, recherche et développement et tout cela, ben, au bout du bout, l'actionnaire principal, parfois majoritaire de ces entreprises, c'est l'État. Donc, charité bien ordonnée, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Voilà, si 5 millions de Français les plus riches donnaient 1000 euros chacun, ça ferait déjà 5 milliards, nous dit Didier. 1000 euros, c'est moins que 100 euros par mois, et c'est impossible. Donc être acteur plutôt que ponctionner, nous dit-il. Yo nous dit, pourquoi ne pas faire une taxe de X% sur les salaires hautement indécents, ce sont ses mots. Salaire supérieur à 10 fois le salaire le plus faible dans une entreprise, et ce pour chacune des entreprises européennes. Il y a beaucoup de gens qui donnent des suggestions de ce type-là, mais ce que j'entends Christian Desboissieux, et c'est bien normal. J'entends quelque chose qui dit « Ok, pourquoi pas ?» Mais il va falloir que tout le monde participe
le monde,
à ça. Il faudra bien être sûr.
Tout le monde inégalement,
exactement,
en fonction des capacités contributives de chacun.
Et il faudra juste en être sûr et en être vraiment sûr. C'est ce que j'entends des appels, évidemment, ce soir, et ça tombe au coin du bon sens.
Vous avez deux choses. Vous avez, d'une part, globalement, le fait que le taux de prélèvement obligatoire en France est élevé. On est les premiers en Europe, si je puis dire. On a un taux de prélèvement obligatoire de 45 ou 46% du PIB. Et là, on est, si je puis dire, les champions. Donc, globalement, il ne faut pas aller plus haut. Par contre, la question de la répartition de cet effort est une question qui est posée. Et tous vos auditeurs disent, pourquoi pas, mais à condition que ça soit réparti en fonction des capacités contributives de chacun. Et là, je crois que c'est incontournable. Voilà. Mais il faut utiliser tous les leviers. Alors, certains évoquent un effort fiscal supplémentaire pour ceux qui peuvent. Je reviens sur l'emprunt, un ou plusieurs emprunts facultatifs, mais de défense nationale, fléchés comme ça. Excusez-moi, je revenais à la Première Guerre mondiale. Et puis, le niveau européen, Madame von der Leyen a évoqué des pistes.
Ah ouais.
Des pistes. J'entendais aujourd'hui dire il faut utiliser le livret A, excusez-moi de le dire. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit, il sert déjà en grande partie à financer le logement social.
Oui, c'est ça. Vous ne voulez pas que le livret A devienne le livret A comme armement.
Le logement, le financement des dépenses de défense.
Frédéric Souillot, est-ce que vous craignez, et surtout, je vous pose la question à vous, FO, parce que vous avez déjà claqué la porte, est-ce que vous craignez que les conclaves sur les retraites, le conclave, de toute façon, ne servent à rien? Est-ce qu'il y a, au contraire, une crainte que, comme les Danois, là, qui viennent de monter à 70 ans, on se mette, nous aussi, à re-réfléchir à nos...
Alors, j'ai entendu mon homologue du MEDEF dire au Danemark, bon, bah, il faut ramener ça à la situation du Danemark.
On est d'accord. Ça a été leur premier réflexe. À ce moment, vous vous dites, il ne faudrait pas qu'ils aient le même réflexe, quoi.
Bah, certains le tenteront, puisque des illuminations, il y en a beaucoup dans les têtes. pour le coup, le conclave, j'y suis rentré et ressorti parce que ça s'appelle une mascarade. Et puis, délégation paritaire auprès du gouvernement, ça s'appelle une instrumentalisation des organisations syndicales. Et moi, la seule politique que je mène, c'est de la politique syndicale. Maintenant...
Est-ce qu'il y a une vigilance là-dessus, hein, Frédéric Sugu ? Est-ce qu'il y a une vigilance là-dessus parce que l'idée est facile et que les Danois l'ont eu avant nous ?
Oui, enfin, j'ai rappelé à mon homologue du MEDEF qu'en France, si vous décidez que vous êtes dans le privé et que vous décidez de rester travailler jusqu'à 70 ans, personne ne peut vous mettre en retraite obligatoire. Et nous, on aimerait plutôt qu'on augmente le taux d'emploi en France par la formation professionnelle et tout cela, et notamment le taux d'emploi des seniors, des 55-64 ans, puisqu'on a le plus bas taux d'emploi de l'OCDE, parce qu'il faut ramener les choses. Et je m'étais fait noter les chiffres. 35,2%, et c'est la norme OCDE, des 15-24 ans sont en emploi. 82,6% des 25-49 ans. Et on tombe à moins de 60% pour les 55-64.
Puisqu'on parlait de conclave et de réunion, il y avait aussi dans l'intervention du président de la République hier l'idée de réunir à nouveau les chefs de parti, les syndicats, etc. Vous y allez ? Est-ce que vous vous dites oui pour savoir s'il faudra faire des sacrifices et où on les fait ? De toute façon, il est hors de question qu'on ne soit pas autour de la table.
Alors moi, pour l'Union nationale et l'intégration ou l'instrumentalisation des organisations syndicales, pour Force ouvrière, c'est non.
Eh bien écoutez, comme ça c'est clair. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois avec Léo Klim. Merci à tous pour vos très nombreux appels. Avant la question des petits bateaux ce soir, laissez-moi prendre juste un tout petit bout de temps pour remercier Julie Deltaï qui s'occupe du site et de la doc. C'est notre stagiaire au 18-20, c'est son dernier jour. On est heureux d'avoir croisé sa route, bien qu'elle conteste ma façon de chanter, surtout mes choix musicaux. Les très jeunes gens, vous savez, dans une équipe comme celle du 18-20, nous envoient vers des sujets, vers des questions qu'on n'a pas forcément tout seul. Donc c'est très précieux. Merci à toi Julie, bon vent pour la suite. Le reste de l'équipe, c'est Nathalie Poitevin, c'est Amaury Baucher, c'est Stéphanie Boutonnat, Philippe Lefébure et Thomas Langlin. Et à la technique ce soir, il y avait Loïc Fraxos. Et comme j'ai pas vu le deuxième, je l'embrasse quand même. Ah, Julien Dumont, salut Julien.